France Musique.
Qui a fait ça?
C'est moi, maître.
Et où vous croyez-vous?
À l'opéra, maître.
L'Opéra de Paris, toute une histoire. 16e et dernier épisode, retour vers le futur. Vous me connaissez, Jérémy Rousseau, journaliste et producteur à France Musique. L'opéra m'a fait rencontrer des spectateurs passionnés qui ont tous leurs raisons propres d'aimer ce genre. Pour notre dernier rendez-vous, j'aimerais vous en faire rencontrer trois. Trois spectateurs, trois approches différentes. C'est à ce défi de la différence que les successeurs de Rolf Liebermann à la tête de l'Opéra de Paris ont dû faire face. Ses directeurs se sont appelés Lefort, Bojanquino, Martinotti, Berger, Cluzel, Gall, Mortier, Joël, aujourd'hui Lissner. Ces trois spectateurs ont chacun un quart d'heure pour nous parler de leur Opéra de Paris. Les voici. Je m'appelle Marc et voici ma femme, Gina.
Bonjour.
Nous sommes tous les deux retraités. On vit plutôt bien et on adore l'opéra. On adore surtout Jonas Kaufmann. Ma femme encore plus que moi. C'est pas que je retrouve à dire sur son talent, hein, mais disons que je suis moins enclin à aller toujours, spectacle après spectacle, le saluer et lui demander quand il revient à Paris ou s'il viendra chanter un jour à l'Opéra de Lyon. Parce qu'on est de Lyon. Et ma femme sait tout de son emploi du temps. Où il chante, avec qui, ce qu'il prévoit, ce qu'il annule, et les zones blanches qu'il laisse sur son calendrier. Des moments, nous a-t-il dit, qu'il se préserve au cas où un beau projet surgirait au dernier moment, une proposition inattendue, avec un grand chef, un metteur en scène qu'il aime, un rôle qu'il ne pourrait pas refuser. En fait, on organise notre vie en fonction de ses performances. Jonas, à notre insu, a pris dans notre vie une sacrée place. On n'a raté aucune de ses prestations à Bastille. Pour certains spectacles, comme Lohengrin, on est même retourné trois fois. On va tout voir à Lyon, mais ça ne nous suffit pas. Alors, on est abonné à l'Opéra de Paris. Depuis l'ouverture de la Bastille, depuis les Troyens de Pizzi en 1990, je ne crois pas qu'on ait raté beaucoup d'événements importants. On a même vu, entendu, des choses un peu modernes, vous savez. Lady Macbeth de Shostakovich dans une mise en scène d'André Engel à l'ouverture de la Bastille. Une sorte de péplum avec une explosion sur scène et des décors incroyables qui montaient des sous-sols, qui allaient dans tous les sens. Et puis on a vu Pavarotti aussi, dans le bal masqué de Verdi. Ça nous a pas beaucoup plu. Il n'y avait presque plus de voix et c'était une mise en scène rikiki. En revanche, on avait été très impressionné par Elektra avec Gwyneth Jones et Léonie Rizanek. Et puis après, tous les spectacles de Robert Carsen. Qu'est-ce que c'est beau, ces décors, et puis c'est toujours intelligent, toujours élégant, Carsen. Une fois, on a emmené un ami voir sa Rusalka de Dvorak. Il a trouvé qu'il y avait un côté branché chez lui. Il nous a dit, son mobilier, ça fait très La Rochebeaubois. Moderne, mais moderne avec du goût. Et puis, il y a eu encore Nabucco, La Flûte Enchantée, qu'est-ce que c'était bien. Et puis Carsen, il a fait aussi les contes d'Hoffmann. Vous voyez, si je dis les contes d'Hoffmann, ça nous ramène à Jonas. Il aurait dû chanter Hoffmann en octobre 2016, mais il a dû annuler. Un nodule sur les cordes vocales, je crois. Il n'a pas chanté pendant plusieurs mois. Faut dire que Jonas a très souvent annulé. Le pire, ça a été pour les Troyens à Londres en 2012. Avec ma femme, on avait tout organisé, les places des mois à l'avance, des billets d'Eurostar et deux nuits d'hôtel. Ça a été un coup. On avait hésité entre les Troyens à Londres et une croisière sur l'Adriatique, si on avait su. Mais sinon, à Paris, on a tout vu avec lui. Ses débuts, personne ne s'en souvient trop. Othello en 2004, je crois. Mais pas dans le rôle principal. Sa voix n'était pas mûre. Il chantait Cassio avec Vladimir Galousine. Après, le grand événement, ça a été Werther, mis en scène par Benoît Jacquot en janvier et février 2010. Sophie Coche, Ludovic Tézier, Anne-Catherine Gillet, Michel Plasson. Un miracle. Premier Werther et Werther pour l'éternité. Fini. Plus de Jonas. Ça nous a surpris alors. On était tellement contents que Nicolas Joël soit nommé à la tête de l'Opéra de Paris. Lui qui avait fait du Capitole de Toulouse une scène prestigieuse avec d'immenses chanteurs. Eh ben non. Jonas Kaufmann n'est jamais revenu après Werther. Jusqu'en 2015, plus rien à l'Opéra de Paris. Alors qu'il était dans ses meilleures années. Timbre sublime, chaud, parfois baritonnant, musqué, musicalité exceptionnelle, très large palette de nuances, diction soignée, a écrit Renaud Machard dans Le Monde. Ajoutez à cela des dons de comédien et une allure d'idole des matinées et vous obtenez un cocktail de qualité rarement réuni à l'opéra. C'est bien dit, non? Ces dernières années, on s'est bien rattrapé grâce à Stéphane Lissner. Il a invité Jonas Kaufmann toutes les saisons. Par contre, les mises en scène, aïe aïe aïe. Ce Lohengrin, là, par cet Allemand un peu torturé, Klaus Gut, et puis la damnation de Faust avec ses vidéos d'escargots, c'était bête. Le public huait durant l'ère de Marguerite. Ça devait être terrible pour les chanteurs. Après, il y a eu ce Don Carlos, en français, avec des chanteurs merveilleux. Elinda Garanza, Sonia Yoncheva, Ludovic Tézier. Mais alors, un décor fourre-tout de Christophe Warlikowski. On peut dire qu'avec ma femme, on ne le porte pas dans notre cœur, celui-là. Alors moi, c'est Marie. J'ai 27 ans, je suis assistante de production dans l'audiovisuel, je suis née au Kremlin-Bicêtre et j'ai fait quelques années de violon quand j'étais petite. Et puis, j'ai choisi des études de communication et de lettres modernes. J'ai eu la chance que mes parents m'initient à l'opéra quand j'étais ado. En fait, j'ai d'abord aimé le ballet avant de venir au chant. Et pour mes 18 ans, mes parents m'ont offert un abonnement à l'Opéra Bastille. Comme j'étais contente. Le premier spectacle que j'y ai vu, c'était La Ville morte de Korngold. Mon Dieu, cette musique! Il y avait une jolie distribution, Ricarda Merbet, je crois, mais surtout une mise en scène féerique qui montrait bien la dualité des personnages et qui traduisait cet univers de rêve avec une très belle poésie. C'est surtout la musique de Korngold que j'ai trouvée envoûtante. J'ai écouté et réécouté sans cesse cet opéra, et c'est sûrement un de mes opéras de l'île déserte. Je l'adore! Mélange de réminiscences de Wagner, de couleurs viennoises, de mélodies obsédantes. L'air « Gluck das Meer verblieb ». Mais comment c'est possible d'écrire un si bel air? Mon Dieu, cette volupté! Je ne sais plus qui a dit « La Ville morte de Korngold », c'est l'opéra que Mahler n'a jamais écrit. Hélas, c'était une production louée à Vienne ou Salzbourg et on ne l'a plus jamais revue. Le décor principal s'ouvrait et tous les éléments scéniques s'éparpillaient à l'infini. On ne savait plus si on était dans la réalité ou dans la tête de Paul, le héros. Les productions louées durant la période Nicolas Joël, il y en a eu beaucoup. André Chénier, Francesca da Rimini, Cette ville morte, beaucoup trop. On les faisait venir à grands frais, on donnait cette représentation et ça repartait. Normalement, on produit des opéras qui appartiennent ensuite à la maison et qu'on reprend dans des distributions différentes chaque saison. La reprise peut même surpasser la création, j'ai constaté ça. C'est comme ça à l'Opéra de Vienne, au Metropolitan Opera de New York, et c'est ce qu'a mis en pratique, je crois, le grand directeur Hugues Gall entre 1995 et 2004. Il s'est inspiré de Liberman. Avant lui, il n'y avait pas de répertoire à l'Opéra Bastille, alors qu'aujourd'hui, eh bien, on reprend toujours des spectacles créés sous sa direction il y a plus de 20 ans. Quand je me suis vraiment installé à Paris, en 2013, pour faire des stages et trouver du boulot, plus question de me passer de l'opéra. Bon, déjà, la boîte dans laquelle je bosse a des plans parfois pour qu'on assiste au général, ou propose des prix avantageux via le CE pour des spectacles qui remplissent moins. C'est comme ça que je me fais ma culture lyrique. Je vais voir un opéra, une fois, parfois deux. Ça a été le cas de Moïse et Aaron de Schoenberg. Très intéressant comme spectacle. Grâce à Romeo Castellucci, surtout.
Ich bin alt, lass mich in Ruhe meine Schafe weiden.
Moïse et Aaron, je ne peux pas dire que j'adore cette musique, car j'ai besoin d'émotions, de mélodies. Désolé, hein, c'est mon petit côté réac. Mais il y a toujours un moment, pendant le spectacle, même si la musique n'est pas évidente, où quelque chose vous touche, un air, un cœur, une scène, et qui vous donne, après, envie d'y revenir et de découvrir plus avant. En tout cas, ça marche comme ça pour moi. Et puis, depuis que Stéphane Lissner a pris la direction, vous avez vu le prix des places, des avant-premières ? Si vous avez moins de 28 ans, c'est 10 euros. 10 euros ! Incroyable, non ? Ça, c'est vraiment le service public. C'est vrai qu'à côté, les premières catégories atteignent des tarifs dingues. 280 euros pour la Valkyrie avec Jonas Kaufmann la saison prochaine. J'ai dit Jonas Kaufmann à l'instant, mais j'aurais pu dire Grigolo. J'aime bien Jonas Kaufmann, attention, mais mon vrai chouchou, c'est Vittorio Grigolo. Mon Dieu, ce timbre ! Un petit côté Pavarotti, que je n'ai entendu qu'au disque, hein. J'ai 27 ans, je vous rappelle. Et Grigolo, ce côté chien fou quand il est sur scène, dans Rigoletto, dans Lucia di la mer mort, dans l'élixir d'amour, il irradie. Mes meilleurs souvenirs à Bastille ? Alors, outre mes 5 ou 6 lacs des signes, je dirais, attendez, La Traviata, avec Sonia Yoncheva, De la Maison des Morts, de Janáček, avec Salonen, et cette mise en scène de Patrice Chéreau qui vous cloue sur place, le spectacle parfait. Ah, et puis j'oubliais, Les Maîtres Chanteurs de Wagner en 2016. Dieu, cette flamme, dès l'ouverture. Philippe Jordan, le directeur musical depuis une dizaine d'années, je l'aime énormément. Et je crois que les musiciens aussi. À mon avis, il n'a jamais fait mieux que dans ces maîtres chanteurs-là. Et puis, Gerald Finlay dans Hans Sachs, je le mets au niveau de Brinterfeld dans Falstaff. Après, je dirais Peter Mattei dans Onegin. Quel acteur-chanteur incroyable. et Anna Netrebko dans le Trouvert. La voix la plus impressionnante que j'ai entendue en vrai, je crois, avec celle d'Anita. Anita qui a fait Dalila, Azucena, Amneris. Oh mon Dieu, ce timbre! Je pourrais aussi citer le Péléas de Bob Wilson, un vrai classique, qui ne fait pas ses 23 ans. Et vous voyez que je ne m'étends pas trop sur les délires de bidet et ce genre de choses à la mode que Gérard Mortier a installé sur la scène de Bastille et que Stéphane Lissner a parfois tendance à privilégier. Ce qu'on appelle le reggae théâtre. Moi franchement, parfois j'en ai marre. C'est mon petit côté réac, j'assume. Oui, bien sûr, Péléas et Mélisande par Bob Wilson, c'est un classique. Mais la notion de classique à l'opéra, moi, c'est justement ce qui me fait fuir. Je me présente, Thibaut, 38 ans, je suis contrôleur des gestions, né à Paris, où j'ai toujours habité. Je préfère le théâtre à tous les autres arts. bien que je joue du clavecin. Je suis abonné au Théâtre de la Colline et à l'Odéon depuis mes 20 ans et j'assiste au Festival d'Avignon chaque été. Au clavecin, je joue un peu de Bach, mais surtout de la musique française. Louis Couperin, d'Anglebert, Royer, Balbâtre. Je suis très sensible à l'art de l'ornementation et à la grammaire stylistique du clavecin français. C'est à la fois un jeu de piste et puis une sorte de carte du tendre. Mais attention, ce que j'attends de l'opéra, c'est une proposition scénique novatrice, insolente. J'aime ce que font Tcherniakov, Marteller, Warlikowski. Ils pensent avant tout théâtre. C'est construit, pesé, pensé. Ça ne flatte pas les sentiments et ça vous tire toujours vers le haut. Alors j'ai commencé à fréquenter vraiment l'Opéra Bastille quand Gérard Mortier en a pris la direction. Enfin une respiration. C'était un agitateur culturel très stimulant. Un provocateur, vous trouvez ? Ah non, c'était presque un philosophe. Souvenez-vous de sa déclaration lorsqu'il avait pris la direction du Festival de Salzbourg. « Je ne dirigerai pas un festival d'opéra où Luciano Pavarotti viendrait chanter « Au sole mio ». Jamais je ne débourserai 150 euros pour aller entendre des ténors ou des sopranos roucouler dans un spectacle de Carsen ou de Pelli. D'ailleurs, les voix en général m'importent peu. Tant mieux si c'est bien chanté, mais... Alors, déjà, je tire un trait sur tout le bel canto romantique, avec ses codes ridicules et ses livrets hypertrophiés, tellement premier degré. Par contre, L'Orfeo de Monteverdi, tout Cavalli, tout Lully, tout Rameau, tout Mozart évidemment. Et puis après le dernier Verdi, un peu Wagner, c'est ça qui me plaît. Et le XXe siècle. Certains Strauss, et puis Berg, et puis surtout Erwartung de Schoenberg. J'aime assez Janáček, Britten aussi. Ces 10 dernières années, j'ai eu des découvertes passionnantes avec Henze ou Wolfgang Grimm. Par contre... L'opéra américain façon Glass, Adams et toute cette sous-culture Hollywood, très peu pour moi. J'entends beaucoup de critiques sur Gérard Mortier. Mais qui a fait débuter tous les metteurs en scène repris par Stéphane Lissner ? C'est Mortier. Dimitri Tcherniakov et sa relecture au scalpel de Macbeth en 2005. C'est Mortier. Vous ne voudriez quand même plus voir Macbeth en Écosse, non ? Tcherniakov est génial. Il réécrit, dissèque, contextualise et il donne encore plus de force à la musique. Il nous la fait redécouvrir. C'est formidable. Et ce public frileux et réactionnaire qui crie au scandale, il devrait le remercier de savoir arranger des livrets impossibles. Et quand Tcherniakov s'attaque à l'opéra russe, comme La Fille de Neige, là il peut avoir des fulgurances encore plus géniales. Quoique je trouve ça un peu trop esthétisant visuellement. Je dois dire que le premier à avoir réussi à me faire aimer les Troyens, eh ben c'est Tcherniakov. Il a osé décaper ce pince-homme. Non, celui qui a toute mon admiration, c'est Christophe Varlikovski. Lorsque Mortier lui a confié Iphigénie en Tauride en 2006, il a glissé le drame antique dans une sorte d'asile, d'hospice. Il montre la condition humaine des plus faibles d'entre nous et il donne aux phrases de Gluck une acidité, une tension insoutenable. Son dramaturge, Miron Hackenbeck, écrit « Les personnages de l'opéra ne cessent de rêver de la délivrance par la mort. Et pourtant, Iphigénie et son frère retourneront à la vie. Seront-ils guéris de leurs blessures et des sentiments de culpabilité qui les rongent ? Il suffit de consulter les recherches sur les névroses vécues par les vétérans de retour de la guerre du Vietnam et sur le sentiment de culpabilité éprouvé par les sentiments de l'Holocauste. » C'est fulgurant. Merci Varlikovski. Son Parsifal, plus ancien mais débarrassé de tous ces oripeaux chrétiens, nous renvoie tel un miroir toutes nos insuffisances. De toute façon, je me fiche de savoir si cette école de l'excellence qu'est le Regi Theater a pris le dessus aujourd'hui. Mais je sais que sous Stéphane Lissner, ce style s'implante, enfin, et prend racine. Si nous avions du Mac Vicar, du Laurent Pelly ou de ces Américains tout le temps, qui ne pensent qu'à flatter l'œil, je ne remettrai plus les pieds à l'opéra.
Thank you. malheureux. Quel dessein à vous-même contraire vous amenez dans mes états?
Notre projet est un mystère, c'est le secret des dieux, tu ne le sauras pas.
De ton arrogance hautaine, la mort sera le prix. Arde, qu'on les emmène.
Comment s'y prendre face à des goûts si opposés ? Transportons-nous en 2022 et imaginons-nous à la place d'un directeur idéal. Récit purement fictif. Stéphane Lissner a été ovationné pour sa dernière représentation hier soir. Je deviens donc officiellement le nouveau directeur de l'Opéra de Paris. Depuis 2 ans, je travaille les grandes lignes de ma programmation jusqu'en 2026, un peu dans la précipitation certes, mais j'ai eu la chance de travailler avec Stéphane en très bonne intelligence. Il m'a appris le fonctionnement de cette immense maison pour laquelle j'ai fait acte de candidature en 2017. J'ai compris que les syndicats sont aussi très puissants et que la hiérarchie est importante ici. On s'adresse à moi d'une façon très différente, comme s'il y avait le prince en haut et le petit personnel en bas. Ça m'agace, ce sentiment de lutte des classes. Ça n'a plus lieu d'être. J'espère simplifier la chaîne de décision et impliquer davantage tous les échelons de la maison.
Ce nouveau directeur fictif a-t-il déjà bâti sa programmation ?
Pour l'heure, les Français, la presse, puis le public ont favorablement accueilli cette première saison 2022-2023. Les abonnements se sont envolés. Je suis donc assez optimiste. J'ai contacté beaucoup d'artistes, bâti ce que j'estime être équilibré pour l'opéra. C'est-à-dire sans trop laisser parler mes goûts personnels, pour être tout public. Et pour toutes les bourses. Tout de Lully à la musique d'aujourd'hui. Je dis bien musique d'aujourd'hui. Car on m'a expliqué que parler de musique contemporaine en France était souvent préféré au terme musique d'aujourd'hui. Je rêve qu'on puisse créer des nouveaux opéras qui entreront dans le répertoire. Pas seulement des expérimentations pour satisfaire un cahier des charges. J'ai bien remarqué qu'il y avait quelques crispations sur ce sujet. Mais je joue la carte de la naïveté, du directeur étranger qui connaît mal les dessous de cette institution. J'ouvrirai avec les Vêpres siciliennes de Verdi, mise en scène par Olivier Py. J'ai convaincu Klaus Gut de reprendre son cycle Mozart da Ponte, conçu pour Salzbourg il y a 15 ans, mais qui n'a pas pris une ride. Il est indispensable pour l'Opéra de Paris d'avoir à demeure ses chefs-d'œuvre. Viendront ensuite une armide de Lully, dirigée par Raphaël Pichon, Salomé, qui verra les débuts à l'opéra de David Lynch, Jeanne au bûcher, avec Nathalie Dessay, et la première mise en scène de Jonas Kaufmann. Warlikowski, Bieito ou Tcherniakov, on les a beaucoup vus ces dernières années. Et leur confier systématiquement tout me semble paresseux, confortable, un peu facile. Le public en a assez. Il faut varier l'offre esthétique.
Et comment ce nouveau directeur fictif voit-il l'avenir ?
Le plus délicat sera l'équilibre budgétaire. Pour ne pas augmenter le prix des places, et en particulier les catégories 2 et 3, ces milieux de cordées qui sont le public de demain, il faudra continuer de développer le mécénat. Peut-être aussi réduire le nombre des productions, une en moins par an, tout en augmentant chaque série de 2 représentations. Par contre, je souhaite abandonner la construction de la salle modulable de Bastille. C'est un trop grand risque actuellement. Les jeunes paieraient certes moins cher, mais pour des petites formes lyriques, quelle expression péjorative, et ils n'auraient pas plus accès aux vrais opéras joués dans la grande salle. Non. Tout le monde doit voir la même chose. La salle modulable, à mon sens, est un peu le risque d'un opéra à 2 vitesses. Rappelons-nous la volonté de Jean Villard, créer l'opéra pour tous. Il faut y revenir, ne jamais lâcher. Et je ne suis pas un utopiste, croyez-le bien. Nous avons écouté des pages de Mozart, Gluck, Ambroise Thomas, Wagner, Dvorak, Offenbach, Massenet, Verdi, Rimsky-Korsakov, Schönberg, Korngold, Frescobaldi, Balbâtre, Donizetti, Saint-Saëns et Bronfels. Référence à retrouver sur francemusique.fr. C'était l'Opéra de Paris toute une histoire, émission préparée par Marion Guillemet, prise de son et mixage Benjamin Vignal et Jean-Michel Bernaud, réalisation de Claire Lagarde.
France Musique, c'est l'été ? À réécouter sur francemusique.fr.